Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être en direct tous les lundis, du lundi au vendredi, de 15h à 16h. Alors comme tous les jours, dès 15h, il se tient prêt à mes côtés pour vous rassurer s'il le faut, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Alors au sommaire, aujourd'hui, notre grand dossier du jour, nous allons parler d'une colocation que nous vivons tous, celle avec nous-mêmes, notre moi. Il peut être notre meilleur ami ou notre pire ennemi. Alors comment apprendre à bien vivre avec soi-même, ce qui peut être plus confortable en général, bien sûr, mais plus particulièrement dans la période actuelle. Pour nous guider dans cette vie intérieure, pour nous apprendre à écouter cette petite voix, notre invité du jour, ce sera le docteur Philippe Prel. Il est médecin et psychothérapeute. Ensuite, dans notre chronique Les bobos du quotidien, le docteur Jimmy Mohamed nous parlera d'un bobo très fréquent, très contagieux, qui touche nos yeux. Il nous dira tout aujourd'hui sur la conjonctivite. Comment l'éviter si c'est possible? Comment la traiter surtout? Nous ferons le point. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle répondra à une jeune femme qui se pose quelques questions sur l'orientation sexuelle de son compagnon.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer avec cette question de Rémi. Écoutons-la.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. J'ai une petite question à vous poser. Selon ma pharmacienne, j'ai un panaris à l'ongle de mon index. Elle m'a expliqué dans un premier temps qu'il s'agissait d'une infection cutanée, je crois. Mais depuis hier soir, j'ai une petite poche de pus. Je me demandais qu'est-ce que je dois faire pour la traiter. Est-ce que je dois la percer ou tout simplement attendre que ça passe tout seul? Merci pour votre réponse et bonne émission à vous.
Merci beaucoup. Alors Jimmy, un panaris, c'est quoi l'origine en général? Est-ce que ça peut pas arriver aux gens qui ont tendance à se ronger les ongles notamment?
Oui, on appelle ça l'onychophagie. Un panaris, c'est une infection bactérienne des tissus cutanés et sous-cutanés. Et ça commence par un petit bobo. Donc ça peut être le fait de se ronger les ongles, mais ça peut être une manucure qui est un peu ratée. Lorsqu'on s'arrache notamment les petites peaux qu'on appelle les cuticules. Et donc à ce moment-là, on a une porte d'entrée et des bactéries peuvent venir et donner justement ce panaris qui, au bout de 2 à 5 jours, va donner cette collection qui va être douloureuse.
Donc ça peut démarrer par une petite plaie et ça finit, est-ce que ça finit toujours d'ailleurs avec du pus comme le décrit Rémi? Quels sont les symptômes précis du panaris?
Alors on n'est pas tous égaux face au panaris, certains ne vont jamais en faire de leur vie, d'autres vont en faire assez régulièrement. On sait qu'il y a certains facteurs de sensibilité du panaris, notamment si vous êtes diabétique, si vous avez des maladies avec des immunosuppresseurs, si vous buvez de l'alcool, vous avez une fragilité particulière à faire notamment des surinfections et notamment au niveau des doigts. En revanche, on sait que ça va commencer toujours à peu près de la même façon, une petite plaie, un petit bobo. Qui va ensuite lancer, ça va faire comme
ça. Ça devient rouge peut-être.
Exactement, ouais. Ça gonfle, c'est chaud, c'est douloureux. Et puis au bout de quelques jours, une boule de pus va se former.
Donc ce qui lui arrive, c'est tout à fait normal.
Exactement, ouais. Et ça va décoller parfois l'ongle qui va avoir un aspect un peu blanchâtre.
D'accord, et un panaris, ça paraît banal, hein, comme ça vous le dites, ça peut nous arriver à tous, ou à aucun d'ailleurs, mais si on ne fait rien, ça peut s'appeler aussi, ça peut être plus grave, et ça peut s'appeler un panaris profond, c'est quoi ça?
Oui, c'est une atteinte de ce qu'on appelle des gaines. Il faut bien comprendre que dans le doigt, vous avez des tendons, c'est des petites poulies qui permettent justement de fléchir les doigts, et à ce moment-là, lorsque le panaris n'est pas traité, les bactéries, elles vont diffuser, elles vont se propager tranquillement le long de votre main et de ces gaine qui va faire que vous allez avoir du mal à fermer la main. Et à ce moment-là, le chirurgien est obligé au bloc opératoire de tout nettoyer et de tout enlever, même si le meilleur des traitements, c'est de commencer à désinfecter dès le début.
J'allais vous dire, dès que si on le prend tôt, il faut quand même le faire mûrir, je crois, ce panaris, c'est-à-dire il faut
exactement
faire quoi?
Alors, le panaris va évoluer de deux façons. Soit il va se collecter et former une boule de pus, et là, c'est le chirurgien qui doit vous l'enlever. Si vous percez vous-même simplement, eh bien, il y a un peu de liquide.
Oui, posez la question,
partir.
On ne touche pas, donc on ne perce
pas. Parce
pas
que si on
même,
fait ça, on va peut-être mal le faire, et même quand on le fait bien, il va rester la coque du panaris qui va faire qu'il va repousser dans quelques temps. Donc c'est le chirurgien qui doit enlever ça au bloc opératoire. Il ne faut pas oublier d'avoir d'autres vaccinations contre le tétanos à jour, parce que c'est-à-dire qu'il y a une plaie. Et puis sinon, on désinfecte, on fait des bains de Daquin, d'Exomédine, 3-4 fois par jour, et souvent ça passe comme ça.
Très bien, merci beaucoup Jimmy. On va prendre tout de suite une deuxième question, celle que nous a laissée Yousra pour vous. Écoutez bien.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. J'ai une petite question à vous poser. Mon fils de 6 ans commence à avoir une pilosité pubienne. Ma question, c'est est-ce qu'il a une puberté précoce? Et si oui, qu'est-ce que je suis censée faire? Alors merci pour votre écoute et puis belle émission à vous.
Bon Jimmy, sans trop m'avancer, j'ai pas terminé mes études de médecine à 6 ans, des poils pubiens, je pense qu'il faut s'inquiéter un petit peu quand même.
Oui, ça y ressemble, ça peut être des signes de puberté précoce. On rappelle que c'est des signes de puberté, donc chez le petit garçon ça va être une pilosité au niveau du pubis, une augmentation du volume du testicule ou de la verge avant 10 ans. Les signes de puberté précoce chez la petite fille c'est avant 8 ans, mais lorsque c'est simplement des poils pubiens, s'il n'y a rien d'autre, si le testicule est de taille normale, et si à ça on ajoute un peu d'acné par exemple, eh bien ça peut être simplement un problème lié à une hormone qu'on a au niveau des surrénales. Donc, ce que je vais vous dire par là, c'est qu'à 6 ans, avoir des poils pubiens, évidemment, ce n'est pas normal.
Et donc, on consulte qui ? Un pédiatre endocrinologue, peut-être ?
Dans un premier temps, on peut aller voir le médecin traitant ou le pédiatre classique qui va mesurer aussi la courbe de croissance, car dans une puberté précoce, tout d'un coup, les enfants se mettent à grandir beaucoup plus rapidement.
Oui, poussé anormal.
Exactement. On aura tendance aussi à faire des prises de sang pour confirmer ça. Et on fait aussi ce qu'on appelle un âge osseux pour savoir si l'enfant de 6 ans a bien une main d'un enfant de 6 ans ou si la radio montre une accélération de la courbe de croissance et qu'à ce moment-là, il a peut-être une main d'un enfant de 8 ans. Raison pour laquelle on fera d'autres examens et notamment une IRM cérébrale pour être sûr qu'il n'y a pas une petite tumeur qui peut donner cette puberté précoce.
Bon, si puberté précoce c'était, auquel cas il y a quand même un traitement, combien de temps, comment ça se passe ?
On freine la puberté, on l'empêche de se développer pour éviter que l'enfant ne grandisse trop vite et finisse avec une petite taille constitutionnelle, hein, qui fasse moins d'1m50 chez la petite fille et moins d'1m60 chez les garçons. Et donc on met des anti-hormones en quelque sorte tous les mois sous forme d'injection jusqu'à l'âge de début de puberté. Mais on ne traite pas tout le monde, mais c'est le pédiatre qui est l'endocrinologue qui décide.
Très bien, merci beaucoup Jimmy, c'était très clair. Si vous aussi vous voulez nous laisser vos questions santé bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout pas d'hésitation.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors accueillons tout de suite notre invité pour le dossier du jour, c'est vous docteur Philippe Prel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin, psychothérapeute et l'auteur du livre « Moi, apprendre à vivre avec son meilleur ami et son pire ennemi » qui est paru donc chez Albin Michel Versilio. Alors vous allez nous aider à décrypter ce « moi », cette petite voix intérieure qui nous caractérise et vous justement, ce « moi », on va parler de vous un petit peu, ça va être très intime dès le départ. Vous l'avez entendu pour la première fois, votre moi lors d'un accident électrique assez sérieux quand même, hein, racontez-nous.
Oui, tout à fait, c'était pendant mes études de médecine et j'étais en train de bricoler de l'électricité quand je me suis retrouvé avec un fil électrique dans chaque main. Évidemment, j'avais oublié d'éteindre le compteur et donc l'électricité passait, me traversait la poitrine, me bloquait la poitrine, je ne pouvais plus ni crier ni respirer et là vraiment c'était la panique, je me disais « t'es en train de mourir ». Et d'un seul coup, tout s'est calmé et la tension a baissé. Et j'ai entendu une voix toute douce, toute tranquille me dire « tes jambes marchent encore ». Et donc, j'ai marché dans la pièce à côté. Les fils étaient trop courts, ça les a arrachés. Et cette voix m'a sauvé ce jour-là. Et c'est le début de ma passion pour le sujet.
Et est-ce qu'il faut forcément avoir eu un accident électrique?
Oui, on aimerait éviter dans l'émission, là, si c'est possible.
Et est-ce qu'on l'a tous entendu, cette petite voix, un peu comme Jiminy Cricket hein, dans Pinocchio? Est-ce qu'elle existe vraiment?
Oui, tout à fait. Alors, vous avez tout à fait raison. Il y a plusieurs, cette voix peut avoir plusieurs rôles. Là, vous avez entendu la voix qui m'a sauvé ce jour-là. Et j'ai réuni beaucoup de témoignages de gens qui ont été sauvés dans des situations extrêmes. Mais vous avez aussi ce petit juge intérieur. Pinocchio, nous le vivons tous, mais tout simplement notre moi avec lequel nous dialoguons tous les jours. Oui, c'est bien sûr, on n'est pas obligé de s'électrocuter pour croiser
tant mieux,
notre moi.
On ne préfère pas tenter l'expérience aujourd'hui. Alors vous proposez justement à vos lecteurs un petit exercice dès le début du bouquin, de prendre son passeport en main et de s'interroger, son passeport, sa carte d'identité, enfin, le papier qu'on a dans la poche, sur ce qu'on a vraiment choisi et qui figure sur ce document. Et vous dites que ça soulage pas mal vos patients. À quoi ça sert ? Expliquez-nous cet exercice.
Oui, en fait, c'est le simple constat que quand on prend son passeport en main ou sa carte d'identité, on se rend compte qu'on n'a rien choisi, ni son prénom, son nom, date de naissance, lieu de naissance, etc. Même son corps, on ne l'a pas choisi, son sexe, sa nationalité.
On est blond, on a un gros nez, enfin tout voilà, ça, oui, c'est comme ça.
On n'a rien choisi. Et donc, la seule chose qu'on a choisi, c'est les lunettes et la coupe de cheveux.
Voilà. Éventuellement les vêtements. Mais...
Éventuellement les vêtements. Voilà, donc c'est assez impressionnant quand on s'en rend compte. Alors, c'est vrai que pourquoi ça peut aider certaines personnes, c'est que des fois, on peut se retrouver bloqué dans une situation. Je pense à une personne qui était déprimée, venait me voir parce qu'elle venait d'apprendre que sa fille était transsexuelle et ça lui gâchait tout son avenir. Et donc, je lui ai dit, on a fait l'exercice ensemble. Je lui ai dit, vous voyez, vous n'avez rien choisi. Donc, votre fille n'a rien choisi non plus. Donc, à partir de là, est-ce qu'on peut essayer de voir les choses autrement? Et en une séance, elle a tout compris grâce à ce petit exercice.
Et justement, pour venir à ce moi, qui est une construction psychique que vous dites dans votre livre, hein, qui se fait depuis notre enfance, puisque malgré tout, à la naissance, on n'a pas vraiment de conscience, enfin en tout cas, pas plus qu'un petit chat ou un petit singe, tout simplement. Et donc, il n'y a pas de moi quand on est bébé.
Oui, tout à fait. En fait, le moi, c'est une invention de l'enfant qui est absolument extraordinaire. Un peu, cela fonctionne comme un logiciel, comme le langage est un logiciel pour le cerveau. Le moi est une véritable construction psychique qui va être élaborée par l'enfant. Et cette construction psychique, ce deuxième lui-même, il va pouvoir le projeter dans l'avenir et faire des projets dans le passé et accéder à des souvenirs dans l'esprit des autres et donc deviner ce qu'il pense et puis aussi le projeter face à lui-même. On parlait de Jiminy Cricket, voilà, c'est typiquement ce qu'il va pouvoir faire.
Alors, dans votre livre, vous parlez de la pensée magique qui permet notamment à l'enfant de faire exister son moi entre 3 et 6 ans, de l'entraîner même. Expliquez-nous comment ça.
La pensée magique de l'enfant, on la connaît tous, elle apparaît à partir de 3 ans. Il joue avec une banane qui devient un téléphone, enfin, tout est magique, simple. Et effectivement, quand il va jouer avec son hélicoptère, il est pilote d'hélicoptère et donc il transpose son moi dans l'hélicoptère. Et donc l'entraînement au jeu est une façon extraordinaire pour lui de faire cette construction psychique.
Et puis entre 5 et 7 ans, il y a une étape cruciale, on passe tous par là, il y a un avant et un après. De quoi s'agit-il ?
À partir du moment où l'enfant devient capable de se projeter dans l'avenir, et il arrive un moment, et c'est quelquefois une discussion, tiens, au fait, papa, grand-papa, il a quel âge ? Oui, et puis alors, dans 50 ans, il aura quel âge ? Et puis après, toi, hein, et puis après, moi, oui, voilà. Donc c'est ce constat que lui-même est mortel. Et ça,
C'est entre 5 et 7, c'est obligatoire.
À 7 ans, 99% des enfants ont fait ce constat. Et c'est un constat auquel, la plupart du temps, ils arrivent seuls ou alors avec une discussion avec un adulte. Et donc, effectivement, il y a un avant et un après parce que certains vont le vivre de manière très simple, en continuité, en disant oui, après, il y aura des enfants. Mais d'autres le vivent comme une véritable épouvante. Et donc là, c'est vraiment difficile.
Vous parlez beaucoup des animaux dans votre livre aussi et notamment de cette supériorité qu'ils ont sur nous, de vivre dans le présent absolu. Expliquez-nous.
Oui, alors là, vraiment, pour comprendre cette notion de présent absolu, je conseille aux auditeurs d'aller sur YouTube et de taper Matsu Zawa. C'est un chercheur japonais qui a beaucoup étudié les primates. Et donc, Matsusawa. Et puis, il cherche chimpanzés et ils pourront même choisir chimps versus humans. Ils verront un homme contre un chimpanzé à un test. Et ce test, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, sur un damier apparaissent 9 chiffres. Et donc, le singe les regarde quelques dixièmes de seconde. Dès qu'il touche le chiffre 1, tous les autres chiffres sont grisés, on ne peut plus les lire et il les reconstitue dans l'ordre. Eh bien, et on voit l'humain à côté, l'humain qui est directeur du laboratoire,
il n'est pas idiot,
il réussit une fois sur 30 et le chimpanzé Ayumu 27 fois sur 30. Alors, qu'est-ce qui explique cette différence ? C'est simplement que nous, la conscience nous amène une couche de réflexion supplémentaire qui nous prend une partie de nos moyens, en quelque sorte, dans ces situations-là, alors que le singe est en présent absolu. Donc, il met toute son attention sur cette... Il fait une photo et après, ça suffit.
C'est un bon exemple.
Ouais. Et c'est la même chose pour les enfants. Ils vivent dans un présent absolu. Et pour s'en rendre compte, vous dites qu'il suffit de se balader avec eux dans un centre commercial à la période de Noël.
Oui, c'est un exercice que j'adore. Mais c'est vrai qu'on pourrait se dire, y a tellement de Père Noël dans un centre commercial qui vont se dire, tiens, on l'a déjà vu.
C'est louche, le troisième, le quatrième.
Eh bien non, il suffit qu'il y ait 5 minutes d'écart entre deux Père Noël et donc il n'a pas encore l'âge de se projeter dans le passé, il ne se rend pas compte qu'il l'a déjà vu.
Très bien, docteur Prel, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes, vous restez bien avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors notre invité toujours en studio avec nous, c'est vous, docteur Philippe Prel. Vous êtes médecin, psychothérapeute et l'auteur du livre « Moi, apprendre à vivre avec son meilleur ami et son pire ennemi » qui est paru donc chez Albin Michel Versilio. Alors on va continuer avec vous ce voyage dans le potentiel insoupçonné de notre moi, notre meilleur ami d'abord. Et vous commencez ce chapitre dans le bouquin en disant que bien souvent, nous ne savons pas ce qui est bon pour nous. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Tout simplement qu'en naissant, nous savons instinctivement qu'il est bon de téter, d'aller vers le chaud, de se
manger
faire câliner.
Manger des gâteaux, moi, voilà. Tout ça, j'aimais bien.
Voilà, mais pour le reste, très vite, on se rend compte qu'on ne sait pas comment savoir qu'il est bon de manger une huître crue ou de porter un jean troué. Ben bon, parce que c'est notre culture, notre société qui veut nous amener ça. Et pendant toute notre enfance, nous voyons les autres être heureux en faisant telle ou telle chose. Nous, on se dit, moi aussi, plus tard, et ça devient des conditionnements latents. Et c'est pour ça que l'on cherche à refaire ces choses-là.
Et vous dites aussi que finalement, tout notre cadre de vie est fictif. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Fictif, je veux simplement dire qu'il est complètement inventé et que qu'on réfléchit...
Donc c'est faux le Covid, là, tout ce qu'on croit vivre depuis un an, c'était faux en fait.
Non,
je voulais que vous nous rassuriez, c'était une blague. Mais...
Oui, le virus est vrai, mais c'est vrai que nos organisations sont extrêmement complexes. Regardez notre émission, là nous sommes dans une entreprise qui est créée sur du papier, complètement inventé, mais écouté par des millions de gens. Donc c'est ça, ce côté fictif et réel à la fois.
Alors pourtant, si je prends l'exemple quand même de l'actualité en ce moment, donc j'en reviens au coronavirus, hein, mais cette épidémie là qui dure quand même depuis un an, elle est bien là, elle nous fait quand même bien souffrir.
Oui.
Notre monde intérieur en ce moment, on l'oublie un petit peu quand même dans le marasme collectif, c'est compliqué d'y penser, de se plonger là-dedans.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, ce que je dirais surtout, c'est qu'à cause du Covid, on met beaucoup moins de belles choses dans notre monde intérieur. Et notre monde intérieur, il ne doit pas devenir une poubelle. Et ça, c'est quelque chose de fondamental à bien comprendre. Et justement, pour devenir son propre ami, il est important de mettre de belles choses en soi.
Et justement, comment on fait pour enrichir ce moi et mettre de belles choses en soi? Parce que, bon, c'est sympa, hein, mais concrètement, quelles actions on peut mener?
Il y en a plusieurs, mais notamment se rappeler les bons moments de la journée, je dirais. Et puis surtout, bien comprendre que quelquefois dans la vie, on ne peut pas faire tout ce qui nous plaît, mais se consacrer 1, 2, 3 heures par semaine à quelque chose qui nous plaît vraiment, eh bien, ça fait un bien fou sur le plan psychologique. Il a été démontré que c'était aussi efficace, entre guillemets, que de faire complètement cette chose-là.
Vous faites quoi, vous, par exemple? 3 heures dans la semaine pour vous remplir de choses positives? Sport, je crois, non?
Oui, du sport, ça, tous les jours. Bon, c'est sûr que notre cerveau, vous savez, on dit toujours, quand vous avez mal au dos, on a envie de rester au lit, de se traîner. Bien, en fait, si vous faites ça, vous aurez encore plus mal au dos. Et bien, avec le psychisme, c'est pareil. Si vous êtes un peu spleen, si vous restez au lit, que vous ne faites rien, à la fin de la journée, vous serez déprimé. Donc oui, il faut bouger, faire du sport, c'est vraiment le meilleur des médicaments pour tout.
Alors, pour faire grandir son monde intérieur, vous conseillez aussi dans votre livre de commencer peut-être en se remplissant des autres. Ça veut dire quoi ?
Mais ça veut dire que je reçois quelquefois des jeunes gens ou des jeunes femmes qui sont inhibés socialement.
Phobie sociale,
oui,
c'est ça.
Oui, voilà, ils n'arrivent pas à aller vers les autres. Et souvent, ce qu'ils disent, je n'ose pas voir les autres parce que je suis vide, j'ai rien à raconter. Et alors, à chaque fois, je leur dis, mais écoutez, vous savez, comprenez que les gens passionnés sont passionnants, donc allez vers eux et faites-les parler et puis remplissez-vous de leur passion et vous allez voir que très vite, vous aurez plein de choses à raconter. Puis peut-être que vous trouverez vous-même une passion et voilà, ça sera parti.
Et pour gagner en liberté, vous conseillez aussi de considérer que notre vie consciente est un film pour davantage s'aimer soi-même. Alors, c'est un peu complexe comme notion, effectivement. Ouais. Vous pouvez nous expliquer?
Oui, bien sûr. À travers deux exemples. Le premier, c'est que quand nous vivons une situation, nous pouvons l'interpréter. Une fois conscient, nous interprétons tout ce qui nous arrive. Et donc, quand je dois faire quelque chose, je peux me dire, soit c'est vraiment une catastrophe et je vais vivre mal, soit au contraire, je peux me dire, y a des choses intéressantes et je vais le vivre mieux. Mais derrière le film, il n'y a pas que cette interprétation-là, il y a aussi les rôles que nous choisissons de jouer. Et moi, je pense à quelqu'un, je vais l'appeler Paul, qui était adorable, très sympa au bureau, et puis complètement cassant à la maison, horrible avec sa femme et ses enfants. Il avait conscience, donc je lui ai dit, est-ce que ça fonctionne? Il dit non. Écoutez, on va changer de rôle, hein, vous êtes d'accord? Et on a travaillé pour changer de rôle.
Donc bien le cinéma, entre guillemets,
oui,
on peut
oui.
le mettre en pratique pour s'améliorer, hein, finalement. Alors pour apprendre à vivre avec son meilleur ami, son moi, vous dites qu'il faut décider de faire le choix du bonheur, on en a déjà un petit peu parlé, mais que l'un des meilleurs outils pour ça, c'est le sourire. Expliquez-nous.
Oui, alors ça a été démontré.
Avec les masques, c'est un peu compliqué en ce moment, mais allez-y.
Ça, c'est vrai. Il faut regarder le pli des yeux.
Voilà.
Mais c'est vrai que c'était démontré depuis longtemps aux États-Unis, mais on a remarqué que les gens qui avaient des photos jeunes où ils souriaient, on voyait des photos d'équipe, de sport, eh bien, ceux qui souriaient le plus, eh bien, c'est ceux qui ont vécu le plus longtemps. Et en fait, la relation est simple, c'est que quand je souris, ça me rend heureux, et quand je suis heureux, je souris. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, ouais. Je pense.
Donc on peut déjà mettre ça en pratique, quoi.
Ah oui, c'est sûr.
Vous donnez aussi quelques conseils qui sont à la portée de tous, et vous rappelez dans votre livre l'importance du moment présent.
Oui, ça c'est vraiment quelque chose de fondamental à bien comprendre. Il y a un psychologue, Csikszentmihalyi, qui a vraiment étudié la façon dont nous sommes heureux et qui finalement a défini ce que l'on appelle des expériences optimales de bonheur. Ces expériences optimales, c'est quand nous sommes complètement plongés dans quelque chose qui nous passionne, qui nous prend.
C'est le flow, c'est ça?
Le flow, voilà. On ne voit plus le temps passer,
on
s'oublie soi-même. Voilà, on est complètement au présent. Donc nos moments de bonheur les plus forts sont au présent. A contrario, nos anxiétés, nos stress, tout ça, sont dans le futur et dans le passé. Alors oui, il vaut mieux équilibrer les choses.
Choisissons celui-ci. Vous dites d'ailleurs dans le livre, c'est rigolo, enfin rigolo ou pas, mais que les riches auraient d'ailleurs plus de difficultés à profiter du moment présent. Comment ça se fait ?
Oui, ça paraît étonnant. Ça a été étudié. Alors peut-être qu'ils se prennent trop le chou.
C'est ça, tout simplement. L'explication est simple en réalité.
Vous proposez aussi justement de se servir de sa mémoire et de se rappeler des bons moments de la vie et de tenter d'amplifier ses souvenirs. Comment est-ce qu'on peut faire ça ?
Alors, effectivement, c'est tout simplement déjà prendre l'habitude chaque jour de revoir quels sont les moments qui ont été le plus heureux dans la journée.
Avec les albums photos, ça peut se faire ?
Oui, alors pour ce qui est des moments, peut-être un truc qui, moi, m'a changé ma vie en termes de vacances. Quand vous avez une période de souvenirs, par exemple 2 semaines de vacances, votre mémoire va se rappeler des événements forts. Et puis le dernier jour, s'il se passe bien ou mal, ça sera la tonalité des vacances. Donc quelque chose de sacré, c'est le dernier jour, on fait toujours le top du programme.
Ah, c'est un bon conseil. Docteur Prel, on va continuer cet entretien passionnant dans quelques minutes.
Retour dans Sans rendez-vous avec Cyclamed, qui valorise les médicaments non utilisés rapportés en pharmacie.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans Sans rendez-vous et nous accompagne cet après-midi, c'est le docteur Philippe Prel, médecin et psychothérapeute. Et donc vous nous guidez aujourd'hui pour faire de ce mois un ami plutôt qu'un ennemi. C'est le titre de votre livre. Alors justement, pour les êtres conscients que nous sommes, vous dites que les pièges ne manquent pas, notamment. Vous dites dans votre bouquin que nous confondons souvent souffrance et douleur. Expliquez-nous la différence et ce que cela implique finalement.
Oui, en fait, tout comme le bonheur est pour nous une interprétation d'un plaisir, c'est pour ça qu'au lieu de manger, nous faisons de la cuisine. Voilà. Eh bien, nos souffrances sont une interprétation d'un malheur. Et ça arrive, par exemple, on le voit très bien, quand on vient de se blesser, on a mal. Si on se projette dans l'avenir et on se dit que la douleur va continuer, elle est augmentée. Tandis que si on reste bien sur le présent...
Vous avez eu un accident de vélo comme ça, assez mythique. Hein.
Oui, absolument. En fait, j'avais mes 2 enfants, un devant, un derrière. On s'est cassé la figure. On allait à une fête de l'école. Et donc, on s'est relevé, on y est allé. Et puis, ils sont allés jouer. Et quand je suis allé prendre le pot avec les autres parents, j'ai pris mon coupe de champagne, j'avais mon verre. Puis un qui m'a dit, mais quand même, ton bras, il est bizarre. Et en fait, il était cassé. Et là, la douleur est arrivée d'un seul coup.
Une fois que vous le saviez, c'était fini.
Alors, vous êtes médecin, psychothérapeute, mais vous aussi, vous avez eu des problèmes psy, même une dépression assez sérieuse, jusqu'à ce qu'un miracle dans la forêt en Guyane arrive. Est-ce que vous pouvez nous raconter ?
Oui, avec plaisir. En fait, c'est vrai que j'avais terminé mes études de médecine à Bordeaux en étant déprimé pour des raisons tout simplement de rupture amoureuse. Mais c'était quand même conséquent et j'ai décidé d'aller faire mon stage interné en Guyane pour retrouver les tropiques de mon enfance, parce que j'avais vécu en Afrique. Alors là, pour la dépression, ça a très très bien marché. Mais je n'avais pas que la dépression, j'avais aussi un trouble panique qui se manifestait, surtout en avion. Alors, et donc, cette panique m'amenait quelquefois dans des services d'urgence, etc. Et puis, en Guyane, ce qui m'a passionné, ce sont les excursions en forêt. Et un jour, on était 3 amis, on est remonté très très loin un petit fleuve. Et au bout de 3 jours, on était complètement perdus. Et là, j'étais dans mon hamac, entre 2 arbres, en train de regarder le ciel. Puis je me disais, mais si t'arrivait quelque chose là, on pourrait rien pour toi. Et là, au lieu que ce soit la panique qui arrive, c'était une grande relaxation. Et c'était un grand bonheur. Et à chaque fois, maintenant que je repense à ce moment, c'est des moments les plus heureux de ma vie.
Mmh. Alors, ça vous arrive encore à vous, alors quand même, un psy, et puis vous avez fait un gros travail, hein, vous aussi, de thérapie personnelle, on va dire. Mais est-ce que ça vous arrive encore d'avoir peur de la mort ? Et je crois que vous dites dans votre livre que d'ailleurs, cette peur, parce que oui, ça vous arrive encore, elle vous aide à écouter les autres. Comment ça ?
Oui, en fait, cette peur, nous sommes nombreux à la croiser régulièrement. Et il faut bien voir que toutes les activités humaines sont en quelque sorte organisé pour oublier cela. En fait, nous nous engageons dans tout ce qui nous dépasse, la nation, la religion, le métier, le couple, la famille, etc. Alors, comme ça nous dépasse, on s'oublie un peu soi-même sur ce plan-là. Mais quand on fait des arrêts sur image, eh bien, on peut se retrouver face à cette peur. Et c'est pour ça, du reste, que c'est étonnant, mais il y a des gens qui ne supportent pas qu'on les mette dans du silence complet, dans une place à rien faire, parce que là, effectivement, qui est-ce qu'ils voient ? C'est cette peur. Alors, comme on la retrouve dans de nombreuses phobies et de nombreux problèmes, oui, savoir parler de la peur de la mort avec les gens, c'est important.
Et justement, dans votre livre, vous dites que la peur de la mort, on peut la contrebalancer grâce à l'estime de soi. Comment est-ce qu'on peut faire ça en pratique avec le coronavirus qui perturbe nos vies et qui nous fait peur, mais de façon naturelle ? C'est normal d'avoir peur du coronavirus.
Oui, c'est normal dans une certaine mesure si on est à risque, bien entendu. Mais c'est vrai, en tout cas, pour ce qui est de l'estime de soi, ça a été démontré. Par exemple, on faisait faire des tests à des gens où, quand ils réussissaient, ils étaient récompensés. Et on s'organisait pour qu'ils soient bien récompensés. Donc, ils avaient une estime d'eux-mêmes qui montait. Et là, après, on leur parlait de la mort et l'angoisse ne montait pas.
Ça passait nickel.
Ça passait nickel. Donc, vraiment, c'est la relation estime de soi. Alors, comment augmenter son estime de soi pendant cette période de Covid ? Eh bien, c'est vraiment en s'occupant beaucoup des autres. Et c'est vraiment là qu'on gagne le plus d'estime de soi, certainement.
D'accord. Alors, pour mieux vivre, il faudrait aussi éviter le piège de la fusion avec nos pensées. Alors, c'est peut-être un peu compliqué dit comme ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça simplement ? Ça veut dire quoi, la fusion avec nos pensées ?
Oui, c'est le terme que nous utilisons en psychologie, mais on peut dire c'est quand nous adhérons trop à nos pensées, et bien elles nous bloquent. Par exemple, si je suis en train de faire quelque chose et puis il y a une pensée qui passe par là qui me dit « tu n'y arriveras pas ».
Les pensées poubelles, c'est ça, les pensées poubelles.
Oui, absolument. Ouais. Et bien cette pensée « tu n'y arriveras pas » va pouvoir me bloquer, alors que ce n'est qu'une pensée. Une pensée, fondamentalement, ce que j'explique aux gens, elles n'ont pas de pouvoir. Si je me dis « tiens, j'aimerais bien que ce stylo se transforme en chocolat », je peux penser très fort.
Ça n'arrivera jamais.
Ça n'arrivera jamais. Voilà. Donc cette pensée « tu n'y arriveras pas » n'est qu'une pensée. Donc effectivement, il faut savoir s'en moquer et défusionner avec elle, ne plus adhérer avec elle pour libérer notre champ de vision et avancer. Ouais.
Et justement, vous dites que même si le confinement était une épreuve, notamment pour beaucoup, eh bien, malgré tout, il y a eu des vertus thérapeutiques pour cette défusion de nos pensées. Je crois que vous avez une histoire d'ailleurs à ce propos.
Oui, tout à fait. C'est Sonia que je suivais, qui est une personne qui a émigré en France et qui a de grosses difficultés avec l'administration. Et tous les mois, elle a peur de se faire expulser. Et là, cette peur était tellement forte qu'elle ne pouvait même plus lire ou faire des photos, qui étaient ses deux passions. Et avec le confinement, elle s'est dit « mais de toute façon, je ne peux plus rien faire ». Et à partir de là, elle s'est remise à lire et à faire des photos.
Un peu comme vous en Guyane, quand on ne peut rien y faire, ben finalement on arrive à se détendre.
Même phénomène.
Et notre pire ennemi, vous dites aussi dans le livre que c'est la paresse. On l'est tous un petit peu paresseux, c'est normal. Mais quand on se laisse piéger par elle, on se prive du bonheur en fait.
Oui, certainement. C'est une tendance que nous avons tous. Et qui fait partie. Mais je considère vraiment que c'est l'un des pièges de la conscience et que nous faisons piéger par des lectures faciles, on va zapper, surfer, etc. Mais tout le monde le vit en ce moment. Quand on passe sa journée à faire ça, à la fin de la journée, on n'est pas très heureux, on a une estime de soi dans les chaussettes. Ouais. Non, c'est pas top.
Alors, on peut tous avoir des souffrances psychiques, des angoisses, mais vous dites qu'il est possible de les vivre en pleine conscience, mais que certains vont s'enfermer dans un cycle de souffrance. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Oui, ça veut dire qu'effectivement, c'est ce qu'a montré ce qu'on appelle les thérapies ACT ou d'acceptation et d'engagement, c'est que la phase, si on est capable d'accepter en conscience nos inconforts psychologiques, et nous avons toujours des inconforts psychologiques dans la vie, bien nous, à ce moment-là, nous devenons capables de continuer à faire ce qui est important pour nous. Et pour ma part, c'est vrai que j'ai expérimenté la première fois cette notion d'acceptation en avion, parce que bon, j'avais ces crises de panique. Alors, grâce aux thérapies comportementales et cognitives, j'avais réussi à me guérir avec la relaxation, cohérence cardiaque.
Déjà arrivé à monter dans l'avion.
Voilà, monter dans l'avion. Mais simplement, la panique venait me voir à peu près toutes les heures. Alors, donc, les longs voyages n'étaient pas confortables. Mais je faisais mes séances, ça se passait bien. Et puis un jour, avec l'acceptation, quand panique est venue me voir, alors qu'avant, je me serais concentré dans ma lecture pour y échapper, là, j'ai posé le livre. Je dis, OK, tu es là, rentre, vas-y, installe-toi, fais comme chez toi. Et effectivement, ça s'est passé comme ça et elle n'est plus jamais venue. Donc là, c'est là que j'ai compris ce grand pouvoir de l'acceptation.
Alors, en conclusion de votre livre, vous comparez donc nos vies une fois de plus au cinéma. Ça veut dire qu'on peut être qui on veut et ça, on peut le décider à n'importe quel âge. Il n'est jamais trop tard pour faire de son moi son meilleur ami.
Oui, ça, je crois que c'est fondamental de savoir réinterpréter différemment certains épisodes de notre vie. Et c'est là que c'est important d'être suivi par un psy ou un coach à ces moments clés. Parce que des fois, on s'aperçoit qu'on va mettre, en ce moment avec le Covid, on met du gris partout. Ouais. Et quelquefois, on fait ça dans nos vies, on met du noir partout. Non, on peut repenser les choses autrement et se retrouver avec d'autres angles, d'autres perspectives.
Docteur Prel, un grand merci de nous avoir accompagnés cet après-midi. Et pour ceux ou celles qui voudraient en savoir plus, je rappelle votre livre « Moi, apprendre à vivre avec son meilleur ami ou son pire ennemi » paru chez Albin Michel. Merci encore, docteur.
Europe 1.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé, Bien-être, Sans Rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner tous les après-midi. À présent, on va parler de la conjonctivite. Vous en avez peut-être déjà eu une, hein, les yeux tout collés au réveil, ou cette sensation très désagréable de grains de sable dont on n'arrive pas à se débarrasser. Alors, savez-vous par quoi est provoqué ce bobo ophtalmologique ? Est-ce si contagieux qu'on l'entend ? Comment surtout la traiter ? Notre reporter Valentin Piovesan a été vous poser toutes ces questions. On écoute tout de suite son micro-trottoir.
Sincèrement, je sais pas trop, la conjonctivite, c'est les yeux ou les oreilles ?
Bah, c'est une maladie qui touche les yeux.
C'est quand l'œil il est gonflé en dessous. Je pense que c'est dû à une infection.
Qui est très désagréable, qui est très contagieuse, il me semble.
Ça faisait pas très mal aux yeux, à mes souvenirs, juste ça piquait parfois.
Quand t'as une conjonctivite, t'as les yeux rouges, t'as les larmes aux yeux.
C'est comme s'il y avait comme si on avait un grain de sable dans l'œil constamment.
Il y a pas une douleur en soi, mais c'est du pus qui est dans les yeux, donc on sait tout de suite que c'est une conjonctivite en fait.
Quand mon père en avait une, je ne pouvais pas ouvrir l'œil pour un bon moment. Et je sais qu'il allait voir le médecin, il avait des antibiotiques, je crois, peut-être. C'est une prescription, en tout cas.
Il faut prendre des gouttes, je crois, et se reposer. Je crois que c'est essentiellement ça.
Voilà, il faut juste nettoyer avec du collyre, c'est tout.
Je me souviens que je portais des lunettes pour ne pas la transmettre aux autres.
Et après, au fur et à mesure, au bout d'une semaine, je crois, c'est parti.
Bon, alors on va voir si on a vraiment du pus dans les yeux. Jimmy, vous allez nous dire. La conjonctivite, d'abord, qu'est-ce que c'est ?
Alors la conjonctivite, c'est l'inflammation de la conjonctive. La conjonctive, c'est cette membrane qui va tapisser l'intérieur de l'œil et des paupières. Et lorsqu'elle va être irritée ou inflammée, elle va provoquer cette conjonctivite qui va donner ces symptômes un peu désagréables au niveau des yeux.
Est-ce que c'est quelque chose de fréquent ? D'ailleurs, peut-être, moi, c'est peut-être parce que je suis biaisée par mon regard de maman et que j'ai une petite fille qui en a eu constamment quand elle était en crèche. Parce qu'on me disait c'est très contagieux. D'ailleurs, on enlève les enfants de la crèche parfois quand il y a une conjonctivite. Mais les adultes peuvent l'avoir autant ou c'est un truc de petit ?
Alors, c'est vrai qu'on en retrouve un peu plus chez les enfants parce qu'on porte plus d'attention. C'est un motif d'éviction scolaire assez fréquent, notamment en crèche. Hein. Qui dit conjonctivite dit quasiment.
Tous les enfants vont l'avoir. Hein, c'est
oui,
ça,
c'est comme si on avait des poux, donc, alors que c'est pas si grave que ça, et que toutes les conjonctivites ne sont pas forcément contagieuses. Et c'est souvent ça l'erreur qu'on peut commettre. Ça veut dire que les adultes peuvent en avoir, les enfants aussi, mais les deux grandes causes qu'on peut retenir, c'est l'allergie et l'infection. Or, les infections, c'est plutôt fréquent chez les enfants. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a un peu plus de conjonctivite chez les enfants.
Même si tout le monde y a droit, on a compris. Alors vous, en consultation, Jimmy, des conjonctivites, est-ce que vous en voyez toute l'année ? Est-ce que comme la grippe, il y a une saisonnalité ou pas ? Est-ce que la conjonctivite, ça peut être tout le temps ?
On peut le voir dans deux périodes de l'année. La première, c'est quand il y a beaucoup d'infections virales. On peut comprendre que si les enfants sont enrhumés, qu'ils toussent, et bien à ce moment-là, il ne faut pas oublier qu'il y a un petit canal qui va relier le nez à l'œil, et donc dès que le nez va être pris, les sécrétions peuvent remonter. Et puis il y a une période de l'année où il y a des allergies, notamment en ce moment, on commence à voir certains enfants. Comme s'il y avait un peu de pollinisation, qui commence à avoir le nez qui coule, les yeux qui grattent, les yeux qui collent. Et donc, la période d'allergie qui commence aux alentours du mois de mars-avril et qui va continuer jusqu'au début de l'été est une période propice aux conjonctivites.
Est-ce que c'est important de faire la différence entre une conjonctivite virale ou bactérienne ? Et est-ce que les deux sont aussi contagieuses du
coup ? C'est important parce que le traitement est un peu différent. Quoi qu'il arrive, si jamais votre enfant a une conjonctivite, le premier des traitements, c'est de rincer. Rincer avec du sérum physiologique, tout simplement.
Nettoyer les yeux.
Vous nettoyez, parce que si jamais c'est une allergie, vous allez éliminer l'allergène.
Parfois, décoller, c'est quelque chose. Je peux vous dire, le matin, quand les yeux sont tout collés, c'est difficile.
Ça fait mal. Hein, ouais. Exactement.
En revanche, on arrose de sérum fille, hein, c'est ça ?
Exactement. On rince. On n'hésite pas à désinfecter avec un collyre antiseptique qui est disponible à la pharmacie sans ordonnance. Et puis, si jamais les deux yeux sont touchés, si jamais l'enfant a le nez qui coule et qu'en plus de ça, il fait un peu d'eczéma, eh bien, on peut se dire qu'on est dans une ambiance d'allergie. En revanche, s'il a des sécrétions d'emblée purulentes, ça colle, les yeux sont collés dès le matin.
Il peut y avoir du pu.
Et oui, du véritable pu, du caca d'yeux, on appelle ça quand on est papa ou maman.
Caca d'œil, ouais.
Exactement. Et bien, à ce moment-là, on peut mettre des collyres antibiotiques, mais là, c'est sur prescription médicale et on aura tendance à traiter les deux yeux car la conjonctivite bactérienne est contagieuse et donc elle peut se transmettre d'enfant à enfant. C'est pour ça qu'on est un peu psychorigide avec.
Très bien, merci beaucoup Jimmy pour cet éclairage. On y voit beaucoup plus clair.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, bien évidemment, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, on va prendre la question d'Aude. On l'écoute.
Bonjour, alors moi j'ai une petite question. Je suis en couple avec mon copain depuis 4 ans et je viens d'apprendre en fait qu'il a eu un rapport sexuel avec un autre homme. On en a beaucoup parlé, il m'assure que c'était juste pour essayer, pour l'expérience. Qu'est-ce que je dois faire, moi ? Est-ce que je l'attire toujours ? Est-ce que finalement il n'est pas homosexuel ? Je me pose beaucoup de questions. Je vous remercie d'avance de vos réponses.
Merci beaucoup Aude pour votre question. C'est pas évident, hein, Catherine, de se livrer comme ça. Donc on la remercie bien évidemment. Le copain d'Aude, donc il l'a trompé pour un homme. Est-ce que oui, c'est quand même, enfin c'est considéré comme une tromperie, peu importe le sexe finalement avec le vers lequel on se trompe.
Bien sûr, c'est évidemment une tromperie. Que voulez-vous que je vous dise d'autre que ça? Maintenant, évidemment, ça pose et les mêmes questions qu'une tromperie qui serait hétérosexuelle,
oui.
Mais ça en rajoute sur l'idée qu'elle se fait de la valeur de sa féminité.
Est-ce qu'on peut dire que c'est, je ne sais pas pire, mais une femme qui est trompée par une autre femme, il y a un sentiment où elle peut rivaliser. Elle était plus grande, plus petite, plus grosse, moins grosse, peu importe. Alors que là, quand c'est un sexe opposé, on se dit... Je suis même pas dans la même cour, en fait, c'est pas la même compétition, donc c'est peut-être encore plus frustrant, non ? Ce sentiment d'avoir été trompé avec quelqu'un du sexe opposé ?
C'est-à-dire qu'effectivement, elle est en droit de se penser, même si son compagnon lui dit que c'était pour essayer, ça veut quand même dire que ça fait partie de ses fantasmes, ses interrogations, hein. Qu'il a envie d'aller explorer des choses nouvelles et qu'elle ne pourra jamais aller de ce côté-là, elle ne pourra jamais lui apporter cette curiosité qui est la sienne. Donc évidemment, avec une femme, elle peut se dire qu'elle peut épanouir un peu plus de choses, qu'elle peut découvrir plus d'autonomie, plus de liberté, plus de connaissances, etc. Mais toujours tirer parti au mieux et au plus largement de son corps et de sa sensualité féminine. Mais sur le plan masculin, si d'aventure son compagnon est en curiosité ou en interrogation sur quelque chose d'homosexuel, évidemment qu'elle n'a rien à lui apporter, si ce n'est de jouer les mecs à fubler de godmiché ou je ne sais quoi. Mais donc évidemment que c'est beaucoup plus déstabilisant.
Qu'on sent le désarroi, mais pas tellement la jalousie. C'est ça qui est bizarre dans sa question, je trouve. Elle ne réagit pas comme une femme trompée, vexée, enfin, je trouve.
Alors, c'est ça qui est d'ailleurs assez curieux. Alors, est-ce que c'est, je ne sais pas quel est l'âge d'Aude, mais est-ce que c'est parce qu'il y a aussi cette idée qu'il faut avoir tout vécu, tout est possible, qu'on choisit nos genres, qu'on essaie tout pour définir où est-ce que l'on va? Donc, est-ce qu'elle est de cette jeune génération qui considère que finalement, c'est presque normal, naturel et presque bienvenu de tout essayer? On a tous à s'interroger là-dessus. Est-ce que vous croyez vraiment que l'on s'est défini par tout ce que l'on essaie pour revenir à une source ou à un choix qui serait le nôtre sur la base des tentatives multiples? Je pense qu'on peut aussi se définir par le cheminement intuitif de ce que l'on est, de ce que l'on ressent. Donc le fait est qu'effectivement, elle semble être moins jalouse que perturbée quant à elle-même, alors que dans la réalité des faits, peut-être qu'elle a aussi le sentiment que, comme elle est trompée par un homme, elle reste la seule femme qui est désirable par lui, et qu'à ce titre, elle n'est pas la rivale, si ce n'est que, évidemment, il sera question du choix de cet homme et de la faisabilité d'une pérennité de la relation.
Alors vous avez dit, à moins de jouer éventuellement avec des godmiché, sous-entendu, ce n'est pas possible. Eh bien, si jamais elle faisait ça, qu'elle se dit « bon bah, vu que tu es peut-être attirée par les hommes, est-ce qu'on pourrait pas jouer avec certains sextoys ?» Je sais pas, est-ce que ça pourrait pas être une solution pour trouver un compromis ? Presque horrible de dire ça d'ailleurs, trouver un compromis dans la tromperie.
Alors, encore une fois, il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet de la tromperie, et puis il y a surtout le sujet de « je suis avec un homme qui est attiré par des hommes ». Donc on peut jouer fantasmatiquement à remplir un rôle plus masculin, et peut-être d'ailleurs s'y retrouvera-t-elle, parce que finalement ça va révéler son propre jeu de quelque chose de plus viril d'elle-même qui va pouvoir s'exprimer grâce à cette ambivalence de son partenaire. On peut d'ailleurs se dire que lorsqu'on choisit un partenaire, peut-être qu'intuitivement, on sait aussi qu'il y a quelque chose de, peut-être de masculin pas suffisamment affirmé et d'une certaine un jeu avec une certaine proximité d'homosexualité qu'elle a dû ressentir quelque part et qui pourra avoir tout lieu pour elle d'expression. Mais si c'est un jeu seulement pour garder un homme qu'elle aime et qu'elle prive sa féminité, elle prive l'épanouissement de sa féminité ou qu'elle se sent remise en question de sa féminité, la relation ne va évidemment pas dans le bon sens et cela va sans dire.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On se retrouve bien sûr demain à 15h.
C'était Sans Rendez-vous avec Cyclamed. Hors période de confinement, rapportez en pharmacie vos médicaments non utilisés. Qu'ils soient périmés ou non, Cyclamed les collecte et les valorise. Plus d'infos sur cyclamed.org.
On revient demain, même heure sur Europe 1. Tout de suite, c'est Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Bonjour messieurs.
Bonjour Mélanie.
C'est pas gagné. Hein.
Qu'est-ce que c'est?
Parce qu'ils ont connu les gens dont on parle aujourd'hui.
Pas nous.
Non, nous, c'était pas gagné non plus. Enfin, ils ont connu les débuts compliqués.
Ouais.
Molière, au début, c'était, il était à la ramasse.
Il a connu la
Jacques
galère.
Brel aussi.
Jacques Brel, oui, on lui disait de rentrer en Belgique.
On disait que c'était Brel. Et vous êtes...
On manquait pas d'esprit à l'époque. Et moi, je vous parle de Michael Jordan, aussi étonnant que ça puisse paraître, parce que c'est quand même le plus grand joueur de l'histoire du basket.
était peut-être le plus grand sportif tout court, et ben dans son premier club de basket, il n'a pas été sélectionné.
Ouais, il manquait 28 cm.
Bon, ben on va vous écouter, on va écouter, vous écouter parce que vous n'êtes pas des brels et nous non plus.
Ça, c'est la plus belle pub qu'on ait pu nous faire, ah oui. Mélanie.
Allez, si vous aimez justement ceux qui ne sont pas des brels, restez sur Europe 1.